savoir, Louise Touret.
C'est un événement dans le monde de l'éducation, et dans le monde d'ailleurs. Ce mardi sera publiée l'étude PISA, Programme international pour le suivi des acquis des élèves, c'est ce que signifie PISA, et c'est une étude publiée par l'Organisation de coopération et de développement économique, soit l'OCDE. Il s'agit d'évaluer les systèmes éducatifs à travers le niveau scolaire, et pas seulement scolaire, des élèves de 15 ans, et c'est plus de 79 pays qui sont ainsi comparés et classés. Nous verrons des listes publiées dans les journaux et circuler sur les réseaux sociaux la semaine prochaine. Le rang de la France sera donné, il suscitera de nombreux commentaires. Ce fut le cas en 2016 et encore 3 ans avant, puisque PISA est publié tous les 3 ans. Alors que les évaluations des grandes écoles, des universités avec le fameux classement de Shanghai par exemple, des lycées et même des collèges prennent une place de plus en plus importante, en particulier dans la presse, et deviennent des indicateurs qui illustreraient le niveau non seulement de ce qui est classé, mais aussi des communes et des pays, il convient de s'interroger. On s'interroge aussi au moment où s'opère un classement global et tous azimuts dans le monde. On note, grâce à nos téléphones ou des bornes installées dans certains lieux, ces mêmes lieux et les gens qui y travaillent. On parle des boutiques, des supermarchés ou des restaurants. Mais revenons au monde de l'éducation et à ses classements. Classements qui se développent dans un contexte un peu particulier, un contexte social où les directeurs d'école et les professeurs alertent sur leurs conditions de travail, où ils alertent également sur leur future retraite et où des statistiques parues cette semaine indiquent que la profession enseignante recrute de moins en moins. Voilà qui devrait s'ajouter aux évaluations pour peindre un tableau un peu plus exhaustif de l'école et de notre système éducatif. Mais les chiffres et les classements domine. Il rappelle d'ailleurs les classements, les notes des élèves, et c'est peut-être pour ça, parce que nous avons été élèves, que ces notes et ces classements nous intéressent. On posera la question à nos invités, et puis surtout, cette fameuse étude PISA et nous pose une bonne question. Et on va jouer un peu avec ce fameux titre de Georges Perec, « Penser classé ». Classer les systèmes scolaires n'empêche-t-il pas de penser les vrais problèmes de l'école ? Et la leçon de choses de Sophie Bobert, c'est en fin d'émission avec une histoire de transmission familiale avec Ariane Ascaride qui va beaucoup nous parler de son père et de ses origines italiennes. Mais pour elle, surtout, le complexe, c'était d'être un enfant de pauvre. Souad Boukorsa est à la prise de son aujourd'hui. Philippe Baudouin réalise cette émission et c'est Avril Ventura, collaboratrice spécialisée, qui la prépare avec moi et qui s'occupe de notre page sur franceculture.fr.
Peut mieux faire. L'école française perd des places dans le classement PISA des systèmes éducatifs. Tous les 3 ans, quelques 5000 élèves français âgés d'une quinzaine d'années sont testés en lecture, en maths et en sciences. Leurs résultats sont comparés à ceux des autres pays et la sentence tombe. La France est 25e en maths, 3 places de moins qu'il y a 3 ans. Elle reste 21e en compréhension de l'écrit et 26e en sciences.
Ça, c'est un reportage, un sujet de France 24 diffusé il y a 3 ans, presque jour pour jour. Je ne sais pas si on dira la même chose mardi prochain, si on sera 25e ou à une autre place. C'est la France. Bonjour Éric Charbonnier.
Bonjour.
Vous êtes analyste à la direction de l'éducation de l'OCDE. C'est un peu vous, avec vos collègues, mais vous qu'on entend beaucoup dans les médias pour parler, évoquer PISA. Parce que c'est le nom. Alors, c'est un classement ou c'est pas un classement, PISA ?
C'est plus qu'un classement. On évalue vraiment la qualité du système d'éducation dans tous les pays. On évalue l'équité sociale, le bien-être des élèves, le climat scolaire. On a vraiment un aperçu des systèmes d'éducation. Et puis, quelque part, on n'a pas de pays miracle. On voit les forces et les faiblesses. Et l'idéal dans PISA, c'est la porte d'entrée et le classement. Mais il est tout aussi intéressant de regarder le bien-être des élèves ou l'équité sociale. Ça nous informe énormément sur les systèmes éducatifs.
Et ça, c'est un vrai sujet en France, l'équité sociale. Je pense qu'on y reviendra. Avec nous, Fabienne Rosenwald. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de l'ADEP, Direction de l'évaluation de la prospective et de la performance de l'éducation nationale. aussi, vous faites, vous, des évaluations du système scolaire français. Vous connaissez toutes les évaluations du système scolaire français qui sont aussi des évaluations internationales. Il y en a plein, des évaluations en CP, ça c'est pour tous nos élèves. Il y en a d'autres sur des échantillons. Il y a des évaluations en CM1 comme PIRLS et TIMSS sur le niveau donc en mathématiques et sciences et en français. On a énormément de données.
Oui, mais justement parce que le système éducatif, c'est quelque chose qui est multidimensionnel et qu'une évaluation, on pourra en reparler, PISA, elle a un objectif, elle a une population qui peut être différente, elle évalue par exemple la littératie. Or, il y a beaucoup d'autres dimensions qui sont intéressantes. D'abord, on peut évaluer des plus jeunes pour savoir ce qui se passe plus tôt dans l'école. On peut évaluer d'autres compétences et donc c'est l'ensemble de ces évaluations, il en faut beaucoup, qui commence à pouvoir construire une histoire de notre système éducatif.
Et la littératie, Éric Charbonnier, est-ce qu'on peut expliquer le sens de ce mot à tous nos auditeurs ?
Oui, c'est la compréhension de l'écrit, c'est-à-dire la lecture et les capacités écrites. Et puis PISA, c'est aussi des compétences. On regarde comment les élèves savent raisonner par rapport à un test. C'est ça, c'est pas une évaluation scolaire. C'est vraiment comment, à partir de ces connaissances, on est capable d'extrapoler des idées, de développer des analyses. Donc c'est pour ça que PISA, on regarde l'évaluation, la performance en compréhension de l'écrit, mais on regarde aussi si les élèves sont capables de localiser des informations, de comprendre, de réfléchir, d'analyser. C'est ça l'intérêt de PISA. On voit qu'il y a des grandes différences entre les pays.
Je me souviens d'un exemple avec une affichette de supermarché. Il fallait comprendre le sens de... C'était une consigne pour des produits qui étaient plus consommables ou qu'on ne pouvait plus trouver. C'est ça, hein, la littératie, c'est savoir lire des affichettes ou des modes d'emploi ou
oui,
des consignes.
Et savoir répondre à des questions qui sont dans des environnements où on n'est pas forcément familier, qu'on n'a pas forcément vu à l'école. C'est est-ce qu'on est capable d'utiliser ce qu'on a appris pour répondre à ce genre de questions qui sont dans des contextes vraiment très différents.
C'est un peu mieux dit avec vous, Éric Charbonnier, merci. Avec nous également, Hugo Harari-Kermadec, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste de l'éducation, maître de conférence à l'École normale supérieure Paris-Saclay dans le laboratoire interdisciplinaire IDHES, moi je prononce comme ça, et auteur de ce livre, Le classement de Shanghai, l'université marchandisée, publié cette année aux éditions du Bord de l'Eau. Alors on comprend que vous n'aimez pas trop les classements. Est-ce parce que ils sont mal utilisés, qu'il y a un objectif derrière les classements ?
Alors, mal utilisé, je sais pas. Moi, ce qui m'intéresse dans la mise en nombre en général et dans les classements en particulier, c'est de me demander qui fait le classement, dans quelle position l'institution qui organise le classement se situe, de quoi elle veut parler et qu'est-ce que ça dit en termes, pour le dire assez explicitement, en termes de pouvoir sur qui va se permettre de donner une représentation et éventuellement de produire des effets. Et l'idée principale, c'est quand même que représenter de façon quantitative, classer, hiérarchiser, donner des notes, ça produit un effet, ça n'est pas juste une description neutre.
Mais évaluer et hiérarchiser, normalement, ce sont deux modalités un petit peu différentes. Évidemment qu'on évalue pour hiérarchiser, mais toute évaluation n'a pas pour objectif la hiérarchisation.
Non, pas nécessairement, effectivement, et c'est des... parties différentes avec des objectifs différents. En général, enfin, suivant les époques, suivant les contextes, on a une intention principale, un effet principal. Et il me semble que dans le contexte contemporain, ouvert depuis une bonne vingtaine d'années, une période néolibérale, on va avoir une transformation assez générale, mais dans l'éducation qui nous intéresse en particulier, qui n'est pas complètement aléatoire et qui ne va pas dans n'importe quelle direction. Et où donc les
donc une direction trop libérale pour vous, si on comprend bien.
C'est le titre du livre, hein, c'est l'université marchandisée. C'est que je pense que les classements et les autres outils d'évaluation quantitative ne vont pas nulle part, ils vont vers une représentation qui pourra devenir monétaire. C'est un peu ça l'idée principale.
Alors, on comprend tout le mal que vous pensez de ces classements des universités, mais concernant des classements et des études telles que PISA, qui sont pour le coup opérées par un organisme comme l'OCDE, c'est encore différent.
L'OCDE, c'est un organisme qui s'intéresse au développement économique, qui s'intéresse à l'éducation et qui a repris littéralement le service statistique qui avant était à l'UNESCO et qui s'occupait de la même chose, de s'intéresser à évaluer, à analyser... l'enseignement dans le monde, mais avec un objectif totalement différent, qui était celui du droit à l'éducation et non pas celui du développement économique. Et du coup, c'est pas neutre comme changement, c'est pas neutre de très nombreux titres, mais entre autres, simplement de quels sont les pays qui prennent des décisions à l'OCDE qui ne sont pas les mêmes que ceux de l'UNESCO. C'est évidemment un nombre beaucoup plus restreint de pays qui sont les pays les plus riches, et donc ça donne une lecture, une construction différente des indicateurs, des évaluations. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Comment ça va représenter différemment les systèmes éducatifs et comment ça va mettre en avant une certaine finalité économique dans ce cas-ci.
Est-ce que pour vous, on ne parle pas assez du fait que ce classement émane justement de l'OCDE et que c'est particulier et que donc il pourrait être différent dans ses objectifs de classement, par exemple, établi par le ministère de l'Éducation nationale, qui peut aussi avoir ses objectifs. Mais ça, on va en parler dans un instant.
Oui, tout à fait. Je pense que les transformations néolibérales, elles ne s'arrêtent pas à celles qui sont mises en avant par l'OCDE et le gouvernement français, en particulier actuel. Je crois que vous êtes au courant à Radio France aussi. Va avoir
un contexte effectivement particulier avec un mouvement de grève cette semaine. Mais c'est pas le sujet de l'émission.
Non, je suis bien d'accord. Donc on va avoir différents pouvoirs qui vont évaluer et représenter d'une certaine façon l'éducation. Mais on parlait tout à l'heure des notes et du fait qu'on a tous été élèves et notés par un professeur. On voit bien l'effet de relation hiérarchique qui a dans le fait de noter. Et la note va toujours du haut vers le bas. Et je pense que c'est ça qui est intéressant à suivre. Ce qui ne veut pas dire que, par ailleurs, les résultats, les valeurs, les statistiques, les indicateurs et les classements n'ont aucune valeur. Ils décrivent quelque chose, mais ils le décrivent avec une certaine intentionnalité.
Éric Charbonnier, quelles sont les intentions de l'OCDE avec ce classement ?
Non, mais déjà, le classement PISA, vous l'avez dit en introduction, c'est 79 pays. Aujourd'hui, il n'y a que 36 pays de l'OCDE. Je crois que l'OCDE s'est beaucoup ouvert sur les autres régions du monde aujourd'hui. Et le test a évolué justement pour prendre en compte leurs besoins. PISA, c'est aussi une étude coopérative, c'est-à-dire que tous les ministères de l'éducation des 79 pays se réunissent ensemble pour élaborer le test, pour être sûr
et que... Et tout le monde participe, ça veut dire que la France paye, que ça coûte quand même de l'argent.
Bien sûr, ça coûte de l'argent. Il y a aussi des partenariats. Il y a aussi une réflexion dans les objectifs de bien durable avec l'UNESCO. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une reconnaissance qu'il est nécessaire d'évaluer les systèmes d'éducation pour voir leurs forces et leurs faiblesses. Et l'UNESCO est d'ailleurs impliquée aussi dans le développement d'évaluation.
Oui, mais on pourrait dire, et je pense que c'était un peu ce que voulait expliquer Hugo à Rick Hermadec, c'est que finalement, les différents pays ne pensent pas leur système éducatif de la même manière, ils n'ont pas la même philosophie. En France, peut-être qu'on est plus théorique et que ça nous désavantage. C'est une critique qui est souvent formulée à l'égard de l'étude PISA, que ça nous désavantage par rapport à d'autres pays dans ce qui est une étude et aussi un classement, on le répète.
Oui, c'est aussi les critiques qu'on avait dès la première étude en 2000. Et nous, ce qu'on avait demandé aux pays à ce moment-là, c'est de nous dire quelles étaient les questions de PISA qui étaient les plus représentatives de leur système d'éducation. Et on avait refait des classements pour chaque pays, juste sur ces questions. Et en 2003, on s'était rendu compte que le classement était quasiment identique quand on prenait juste ces questions pour chaque pays. Donc c'est vrai que, en effet, les cultures sont différentes et on peut pas forcément avoir les mêmes politiques éducatives dans tous les pays. Mais malgré tout, à travers le test PISA, on a vraiment une évaluation comparable et on n'a pas de biais culturel ou peu de biais culturel dans cette étude.
On ne peut pas révéler ce qui va être dit mardi, mais pour vous, qu'est-ce qui est ressorti comme particularité pour la France, d'après toutes les précédentes éditions de PISA? Ça fait toujours un peu bizarre de le dire comme ça, mais on peut le dire. Qu'est-ce qu'on peut dire du système français et qu'est-ce qui le particularise?
Ce que je trouve très bien, c'est que finalement, on a porté en France, mais aussi dans un grand nombre de pays, le thème de l'équité sociale. C'est-à-dire on est parti du principe qu'on pouvait pas avoir un système d'éducation performant et de qualité s'il y avait autant d'inégalités qu'en France, qu'en Allemagne, comme on a pu dire dans la première étude. C'est une idée qu'on a vraiment portée à l'OCDE, alors qu'on était considéré comme le club des pays riches. On a montré à travers cette démarche qu'il fallait vraiment investir dans les établissements défavorisés, bien former les enseignants, qu'il était important de transmettre le savoir. Il y a tout un ensemble de recommandations qui visent finalement à permettre à tous les enfants d'avoir les mêmes chances de réussir dans un monde de plus en plus complexe.
Donc la France, pays particulièrement inégal, même si pas si mal classé. Fabienne Rosenwald, je vous voyais réagir. Alors, sur la production et qui produit les évaluations sur notre système éducatif, c'est important de le savoir. Donc, il n'y a pas que vos services du ministère de l'Éducation nationale.
Alors, en fait, moi, je voulais revenir sur le fait que PISA, c'est pas un classement, mais depuis tout à l'heure, il n'y a pas de classement, parce que d'abord, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que PISA, c'est une enquête statistique. Donc en fait, ça veut dire en France, c'est 6000 élèves qui ont été évalués sur nos 820 000 élèves qui ont 15 ans. Donc en fait, quand on dit le score de la France, c'est 496, on ne sait pas. Il est entre 490 et 500. Donc de toute manière, ça n'a pas de sens de regarder un score moyen. Mais surtout, la raison principale pour laquelle le classement n'a pas de sens, c'est que si on regardait ce score, la France, elle n'aurait aucun problème. On est plutôt dans la moyenne, voire au-dessus. En fait, ça serait aussi sous-estimer ce qu'apporte PISA. PISA, c'est une enquête, et d'ailleurs Eric le disait, qui a beaucoup de dimensions. Or, dans PISA, ce qui est intéressant, c'est en effet de se dire qu'en moyenne, la France est très bonne, mais que par contre, c'est pour un grand écart. C'est-à-dire qu'on a à la fois des élèves très performants, et puis on a des élèves très peu performants. Et en fait,
20%.
Voilà, nos fameux 20%. Alors, on le savait, c'est cohérent avec ce qu'on fait, nous, au niveau national. C'est important de pouvoir avoir d'autres évaluations qui disent qu'on est bien ça. Mais là, on peut aussi se comparer aux autres pays. On est dans la moyenne. Sur l'équité, Eric le disait, l'OCDE a parlé d'équité. En France, ça fait des années qu'on sait que l'origine sociale a un impact sur les résultats scolaires. Ce que nous a montré PISA, c'est qu'on était un des pays où l'impact était le plus élevé. Donc c'est l'intérêt d'avoir d'autres regards. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que l'ADEP investit dans PISA. On co-construit depuis le début, on propose des items, on est dans le conseil scientifique. Donc c'est vrai qu'on a voulu investir parce que c'est ce que vous disiez, les classements sont importants. Et donc c'est un peu notre rôle aussi de dire la qualité ou ce que mesure PISA.
Alors c'est important, la donnée la plus importante, c'est le fait que notre système scolaire est hyper inégalitaire, en tout cas les plus que ceux de bien d'autres pays. Et pourtant, on le sait, ça perdure. Je ne peux pas prédire ce qui va être dit mardi, mais il ne semble pas qu'entre les différentes éditions de PISA et aussi d'après nos informations les plus récentes, il y ait de grandes évolutions sur ce plan-là.
Alors, ce qu'il faut voir, c'est que, je disais, PISA, c'est un dispositif statistique. Ce qui est important, c'est de comprendre le contexte et la population. La population, c'est les élèves de 15 ans. Donc, les élèves de 15 ans, ils sont vieux dans le système scolaire. Ils ont connu l'école préélémentaire, élémentaire, le collège, le lycée. En fait, nos autres évaluations, elles nous servent à voir à quel moment se construisent ces inégalités sociales. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'elles sont construites très tôt. Dès l'entrée à l'école préélémentaire, élémentaire, on a des différences selon l'origine sociale. D'où tout le travail qui est quand même depuis un moment sur l'école primaire. Par exemple, ce qui a été fait récemment, les CP dédoublés en éducation prioritaire, c'est une lutte contre l'inégalité sociale, contre le fait que les élèves arrivent avec des niveaux qui sont déjà très différents à l'école.
Est-ce qu'on peut déjà parler des résultats de cette politique qui est relativement nouvelle, puisqu'elle a un peu plus d'un an maintenant ?
Alors, on a déjà deux manières de regarder les résultats. À l'ADEP, on a mis en place avec des chercheurs une véritable évaluation de l'impact de cette baisse de la taille des classes. Et les premiers résultats montraient qu'on voyait, en effet, une réduction des écarts entre les élèves en éducation prioritaire et les autres. Et puis, les fameuses évaluations exhaustives de début de CE1 montraient que par rapport à l'an dernier, on voyait une réduction. Tous les élèves avaient progressé par rapport à l'an dernier, mais on voyait une réduction de l'écart entre les élèves en éducation prioritaire et les autres. Donc, ça demande bien sûr à être creusé, mais c'est des premiers résultats. Alors, on s'appuie aussi sur une littérature de chercheurs qui existe, qui existe depuis très longtemps, sur l'impact de la baisse de la taille des classes sur les résultats des élèves, qui montrait qu'il fallait faire des efforts très forts, c'est-à-dire qu'il fallait qu'elles soient massives et qu'elles se concentrent sur les élèves les plus concernés, voilà. Donc les plus défavorisés socialement.
Ce qu'on ne peut pas encore savoir, c'est si ces résultats seront durables dans le temps, puisque, comme vous l'avez dit, Fabienne Rosenwald, c'est long, une scolarité jusqu'à 16 ans, et puis peut-être plus tard, on l'espère, pour les élèves avec nous, justement, un professeur de lycée, Thomas Schauder. Bonjour.
Oui, bonjour.
Donc, vous êtes professeur de philosophie, vous êtes chroniqueur au Monde Campus et vous avez publié tout récemment une tribune, un texte, « À quoi sert l'école aujourd'hui ?» et vous vous y interrogiez sur la pertinence. des évaluations, même globalement, hein, de toutes les évaluations au regard de la situation des écoles aujourd'hui?
Oui, je pense que une évaluation en elle-même est toujours finalement quelque chose qui permet de mesurer. Je pense surtout que la question qui n'est pas assez posée, notamment au niveau de l'administration, c'est qu'est-ce qu'on cherche à mesurer, plus exactement, qu'est-ce qu'on chercherait à obtenir. Les finalités de l'école aujourd'hui, selon moi, ne sont pas assez bien saisies. On ne sait pas exactement quelle école on veut pour aujourd'hui, quelle école on veut pour préparer quelle jeunesse, pour préparer quelle France de demain, et par conséquent, finalement, ces évaluations ne peuvent pas nous apprendre grand-chose.
Finalité saisie par qui? Par les enseignants et les professionnels de l'éducation? Par les familles? Par les élèves eux-mêmes?
Mais justement, il y a une pluralité de finalités. Il n'y a pas de finalité unique. Et effectivement, il peut y avoir des attentes de la part des familles, des attentes de la part des jeunes, de la part de leurs enseignants, de la part de la société, en fait, tout entière. Mais finalement, c'est un débat qu'il faudrait avoir, démocratiquement, et auquel il faudrait faire participer tous les parties prenantes. Et ce débat, on ne l'a jamais, malheureusement.
Mais il a eu lieu en 2000, il y a eu un grand débat sur l'école, et c'est même de ce débat, enfin en 2005, dont a été issue l'évaluation par compétences, avec des grandes compétences définies à chaque palier de la scolarité. Et pourtant, il semble pas que ça a été un grand succès populaire ensuite, mais en tout cas, ça fait partie de la loi de 2005 sur l'école, loi Fillon. Mais est-ce que vous avez l'impression que ces classements peuvent aussi masquer une certaine réalité de l'école telle que vous la connaissez, vous, dans votre lycée, par exemple?
Alors, effectivement, moi, mon rapport à l'école est surtout lié à la fin, c'est-à-dire à la fin du lycée. Hein. Donc, évidemment, je n'ai pas un regard qui serait qui embrasserait complètement toute l'école dans son ensemble. Mais très clairement, je pense que aujourd'hui, ce à quoi on assiste notamment dans les lycées, c'est quand même un énorme déficit, par exemple, en matière de culture générale. En matière de maîtrise du français, en matière de maîtrise de l'histoire, etc., qu'on forme des élèves à être d'excellents techniciens, et leur maîtrise technique, par exemple, des outils mathématiques, est tout à fait impressionnante, mais par contre, on ne les forme pas tellement ou pas suffisamment à avoir un esprit critique, à avoir une compréhension des causes et des conséquences de ce qu'ils pratiquent, et avoir une curiosité, et je vais aller jusqu'à dire, on ne les aide pas à développer un amour du savoir, une curiosité à l'égard du monde qui les entoure, et c'est vraiment très dommageable.
Ça me fait penser à cette formule tellement utilisée par les enseignants, on ne travaille pas pour la note. Est-ce que, on ne devrait pas travailler pour la note, est-ce que ces classements, c'est ce qu'on a un peu vu pour les universités, je me tourne vers vous, Hugo Harari Kermadec, c'est un risque qui est pointé, c'est de travailler en direction des classements pour avoir des meilleures places, être mieux évalué, parce que on y a intérêt, non pas seulement pour sa survie économique, pour le système privé, mais aussi pour sa survie tout court, pour les universités publiques et pour avoir une bonne image.
Alors oui, je pense que c'est un des principaux problèmes de la médiatisation du classement de Shanghai et l'importance qu'il prend en France. C'est le fait qu'on va avoir ça comme objectif, le fait de faire apparaître des établissements dans le classement de Shanghai, du coup quelques établissements, puisqu'il ne s'agit pas du tout d'avoir la totalité des universités ou des grandes écoles françaises dans le classement de Shanghai. Et donc on a une transformation en cours, mais assez avancée, très très forte, très massive, de l'enseignement supérieur, autour de quelques pôles qu'on appelle les IDEX, qui ont obtenu des financements de l'ordre de 800 millions d'euros chacun, pour pouvoir se réorganiser, fusionner, apparaître vu depuis Shanghai comme un seul établissement et du coup être comptabilisés ensemble. Donc voilà, il y a par exemple mon école, l'ENS Paris-Saclay, qui a changé de nom, s'appelait Cachan avant, qui va déménager dans les semaines qui viennent pour aller sur le plateau de Saclay, se rapprocher de ce qui était l'université Paris 11 à Orsay avant, avec Centrale Supélec, avec l'Agro, quelques autres, et essayer de construire un conglomérat qui apparaîtra depuis Shanghai comme une seule université, l'université Paris-Saclay.
Quelles conséquences sur les étudiants ?
De très nombreuses conséquences, mon avis, la principale, c'est qu'on concentre l'argent à Saclay plutôt que de la répartir sur tout le territoire français. Et donc, il va rester la très grande majorité des universités qui n'ont pas accès à ces moyens de recherche et qui ont au contraire de moins en moins accès à des financements pour faire de la recherche, et donc pour avoir des enseignants-chercheurs qui sont aussi chercheurs et donc peuvent enseigner les dernières découvertes, qui participent à les produire et à les transmettre donc à leurs étudiants.
Fabienne Rosenwald, pour revenir aussi sur le terrain de l'école et sur l'idée de travailler en direction des classements, est-ce que c'est forcément la même chose que travailler en direction des élèves ?
Alors en fait, justement, dans l'enseignement scolaire, il n'y a pas de classement et à chaque fois, c'est plutôt une entrée multidimensionnelle. PISA, c'est ça. Si un pays veut progresser au score de PISA, c'est pas compliqué. Hein. Il suffit de jouer sur ses élèves moyens ou les plus performants et il grimpera. Mais PISA nous rappellera tout de suite, l'OCDE nous dira « Attention, votre équité est en train de se détériorer ». C'est ça qui est important. On parle souvent des IVAL.
Hein. IVAL pour ?
Les indicateurs de valeur ajoutée des lycées, les IVAL. Les IVAL, pour avoir un bon taux de réussite au bac, un lycée sait très bien comment il peut faire. Il suffit de sélectionner des élèves.
Ça c'est le classement des lycées. Concernant les évaluations, on y revient, des élèves de CP, CE1 aussi de 6e, ce que disent un peu les enseignants, c'est que ça prend énormément de temps quand on évalue tous les élèves et ça prend aussi du temps sur les apprentissages.
Alors ces évaluations, d'abord les évaluations de 6e, elles sont numériques, donc voilà, elles prennent quand même moins de temps que... Il existait des évaluations avant qui étaient sur papier, hein. Mais c'est des évaluations qui n'ont pas tout à fait le même objectif, hein. C'est des évaluations pour aider l'enseignant. C'est-à-dire que c'est une aide supplémentaire en fournissant justement des références nationales, voilà. Donc c'est une aide. Il y a quand même 20% des enseignants du primaire qui nous ont dit que ça les avait aidés. Justement à se rendre compte de difficultés d'un élève qu'on voit pas obligatoirement parce qu'on sait très bien que dans une classe
de l'évaluation
de début CP. Ce sont des évaluations, oui, bien sûr, puisqu'en tant que service statistique, on doit demander on demande aux enseignants si ça leur sert à quelque chose et on le modifie en fonction. Je crois que c'est important quand un élève rentre dans l'école et c'est des évaluations qui sont à l'entrée, elles sont pas en fin. D'avoir justement le profil des élèves. Ça permet aussi d'objectiver les difficultés de certains établissements,
même si c'est très discuté. Le Zéro, une chanson d'Erita Mitsuko. C'est vrai qu'on parle de chiffres, on parle d'évaluation. On parle de classement des systèmes scolaires, des systèmes éducatifs dans Être et Savoir aujourd'hui. Et il faut s'intéresser à l'impact de ces évaluations sur nous, sur les élèves aussi et sur les enseignants. Une information a frappé mon esprit cette semaine. L'édition 2020 des concours d'enseignants ne fait que confirmer, alors je reprends un titre de La Croix, le manque d'activité. Attractivité du métier, attractivité, pardon. Et le nombre d'inscrits au CAPES donc recule de 7,8%. Et dans la voie professionnelle, pour devenir enseignant dans la voie professionnelle, c'est moins 20%. La question que je me suis posée, c'est si cette mauvaise image de l'école, qui est co-construite pas seulement, hein, mais aussi par ces classements qui disent qu'elle est inégalitaire, que finalement elle n'obtient pas les résultats escomptés, cette image de l'école contribuait à détourner un certain nombre de gens de la profession d'enseignant. Éric Charbonnier.
C'est une bonne question et c'est assez complexe parce que le problème d'attractivité, il existe en France, mais il existe aussi dans beaucoup de pays européens, quasiment tous les pays européens par la Finlande et l'Irlande.
Mais moins 20% d'une année sur l'autre, c'est quand même énorme.
On a en Allemagne aujourd'hui, alors que les enseignants sont payés deux fois plus qu'en France, on a une véritable crise de recrutement et les raisons invoquées en Allemagne, c'est que le métier est devenu trop exigeant, que les parents aujourd'hui attendent tout de l'école, qu'on n'est pas reconnu à sa juste valeur. Donc c'est particulièrement marqué en France, c'est ce qu'on voit dans les études Thalys au-delà de PISA, mais c'est un phénomène aujourd'hui européen. Il faut réfléchir à l'évolution du métier.
Thalys, pour préciser ?
Thalys, c'est l'étude internationale qui compare les enseignants au niveau du collège dans plus de 40 pays de l'OCDE et en dehors. Puis aussi, dans un monde où on parle de flexibilité, qu'on va changer de métier, qu'on aura des possibilités d'évolution de carrière, dans beaucoup de pays, quand on devient enseignant, on en prend, entre guillemets, pour 30 ans ou 35 ans.
Ah bah de plus en plus longtemps, d'après une prochaine réforme des retraites, apparemment.
Sans avoir de possibilités d'évolution de carrière. Et ça aussi, c'est un problème. Ça veut dire que quand on s'engage à devenir enseignant, on s'y engage à y passer toute sa carrière. Donc, il faut développer la mobilité, à mon sens.
Ça, c'est pour répondre à cette crise du recrutement, mais son origine, alors ça peut aussi être le manque de mobilité, Fabienne Rosenwald, mais cette image construite par les classements, alors il y a tous ces classements officiels émis par des organismes de statistiques ou des universités. Il y a aussi les classements produits par la presse, classements des lycées qui sont très connus, auxquels vous compterez, mais on va y revenir. Donc une mauvaise image qui donne à la fin aux enseignants et aux parents une mauvaise image de l'école, donc.
Vous parliez tout à l'heure du fait que notre école est inégalitaire, mais ce qu'il faut savoir, c'est d'ailleurs dans l'enquête Thalys, hein, c'est que quand on a demandé aux enseignants pourquoi ils s'étaient engagés et pourquoi ils voulaient être enseignants, c'est justement pour contrer toutes ces inégalités à l'école, c'est pour des raisons altruistes, hein, jouer un rôle dans le développement des enfants, apporter leur contribution à la société. Donc à la limite, voilà, ça renforcerait, mais la seule chose qui apparaissait en négatif, et ça c'est important, c'est l'image du métier dans l'opinion. En fait, et les enseignants français plus que les autres, ils sont très nombreux à considérer que leur profession n'est pas valorisée dans la société et ça peut-être les détourner.
Il faut aussi parler d'une autre actualité de l'école, elle me semble importante, elle concerne la violence des enseignants d'Aubervilliers. On fait circuler une lettre ouverte, ils parlent d'un contexte de violence extrêmement affolant. Il y a eu deux victimes, donc deux jeunes gens qui sont morts, des passages à tabac, des viols. Ils demandent du personnel. On sait que pendant longtemps, un certain nombre de faits de violence ne remontaient pas à l'administration pour des raisons d'image de l'établissement et de ne pas vouloir dégrader cette image aussi pour les personnels de direction qui se sentaient eux-mêmes jugés et classés à cause de ces faits.
Alors c'est là que la statistique publique joue son rôle, hein, puisque ce qui s'est passé suite à ces phénomènes, c'est que c'est l'ADEP, hein, qui a mis en place une enquête, mais qui est une enquête statistique sur échantillon et complètement anonyme. Donc en fait, du coup, les chefs d'établissement répondent, et on sait très bien qu'ils répondent très bien à ce genre d'enquête, parce que ça ne sera pas rendu public. Voilà. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des faits de violence, bien sûr. Il faut objectiver, c'est-à-dire qu'on voit dans une grande partie des établissements, il ne se passe rien. Ça ne veut pas dire que ce qui se passe dans un nombre réduit. En fait, la violence est très concentrée. Vous avez une très grande partie des établissements où il se passe rien ou très peu de choses, et on a une concentration dans certains établissements. C'est important à dire, mais il faut quand même objectiver.
Thomas Schoeder, sur cet aspect, l'image donc que nous renvoie ces classements, et comme ces évaluations transforment notre regard sur l'école pour les futurs enseignants, par exemple.
Ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, tout le monde, parmi mes collègues, en tout cas, témoigne du fait que le métier d'enseignant a véritablement changé. Et la grande majorité de ceux avec qui j'ai eu l'occasion de discuter disent qu'il n'a pas changé en bien. Vous parliez à l'instant de la violence. Il y a effectivement cette violence horrible et particulièrement flagrante qui est très concentrée, comme ça vient d'être dit. Mais il y a une violence aussi symbolique, sourde, qui frappe les enseignants. C'est la violence d'une administration. Je ne parle pas d'ailleurs de l'administration directe, des chefs d'établissement, du personnel d'administration avec qui on est en contact au quotidien, mais plutôt de la part des rectorats, de la part du ministère, etc. Une espèce de surdité à l'égard de ce que les enseignants peuvent essayer de transmettre comme revendication. Et puis il y a une forme de violence symbolique d'une société qui finalement a l'air de ne plus porter dans son cœur les valeurs qui sont au cœur de l'éducation, juste ce dont je parlais tout à l'heure, les valeurs du savoir, de la valorisation de la curiosité, de la valorisation de l'esprit critique, etc., etc. Et ça apparaît évidemment comme une grande souffrance pour les enseignants.
On en revient un peu au thème de tout à l'heure, les chiffres, les données comptent plus que les gens, la manière dont ils travaillent, la manière dont ils apprennent, le plaisir qu'on pourrait avoir à aller à l'école en tant que professionnel ou en tant qu'élève. Éric Charbonnier, est-ce que la France a une façon particulière de s'emparer de cette évaluation PISA qui va paraître mardi, et est-ce qu'elle en a fait quelque chose de spécifique?
Particulière, disons qu'au début des études PISA en 2000, il y a eu un temps de réaction qui a été assez lent, ce qui a empêché la mise en place de toute réforme d'éducation, c'est-à-dire les inégalités qu'on voyait en France n'ont pas été acceptées. Donc ça, c'est un petit peu particulier. En France, on met du temps avant de déclencher
la
réforme.
Alors, je posais ma question autrement. Est-ce que ça a refroidi un peu le rapport de l'administration aux enseignants, aux élèves? Est-ce que c'est ce qui explique aussi une certaine orientation un peu plus bureaucratique qui a été beaucoup dénoncée depuis la rentrée de notre système scolaire?
Plus que bureaucratique, je crois qu'on a du mal en France à avoir une réforme de grande envergure en faveur des enseignants qui puisse porter ses effets et qui puisse toucher toutes les dimensions ensemble. La réussite de la Finlande, la réussite du Canada, les évolutions en Allemagne qu'on a pu voir dans les études précédentes PISA, ça vient d'une réforme, d'une grande concertation sur le métier d'enseignant où on a parlé sans tabou de toutes les dimensions, le salaire, le temps de travail, la coopération entre enseignants, la formation, afin de déboucher sur quelque chose qui soit consensuel et sur lequel on ne revienne jamais en arrière. On a l'impression que ce débat en France, on a du mal à le créer. Et peut-être qu'un jour, un président de la République, un ministre de l'Éducation portera une grande réforme sur le métier d'enseignant. Et c'est ça, nous, c'est ce qu'on dit souvent à l'OCDE, études PISA après études PISA. Les pays qui sont égalitaires, les pays qui sont performants ont un point commun, c'est qu'ils ont investi dans le métier d'enseignant, qu'ils ont réformé en profondeur ce métier. Peut-être c'est ça aussi la réflexion. Et ça prend du temps. En Allemagne, il a fallu plus d'une année de concertation avant d'arriver à un début de réforme sur le métier d'enseignant. Pareil en Norvège, on a plein d'exemples internationaux qui vont au-delà de PISA. Finalement, PISA donne des forces et des faiblesses, mais après, les employés de l'OCDE, de l'éducation, visitent les pays, vont voir la mise en place des réformes, regardent les évaluations, et ça aide justement à faire évoluer les systèmes éducatifs.
Mais pourtant, tous les ministres affirment qu'ils s'appuient sur cette étude PISA, qu'ils vont dans des directions avec leur politique qui seraient les vôtres, c'est-à-dire combler les différences sociales, enfin essayer de le faire entre les élèves. Pourtant, enfin, voilà, vous servez à ça, mais on ne sait pas si ces politiques correspondent à ce que vous préconiseriez.
On peut dire qu'il y a une reconnaissance que les inégalités commencent dès le plus jeune âge. Ça fait deux ministres de l'éducation successifs qui donnent la priorité aux primaires. Donc là, il y a une continuité qui pourrait porter ses fruits, d'autant plus qu'on commence à évaluer les réformes qui sont mises en place. Sur le métier d'enseignant, on a l'impression qu'il y a une telle sensibilité que c'est plus compliqué, à mon sens, de l'aborder dans une globalité. Voilà, c'est un sentiment qu'on regarde. En regardant les autres pays, on voit que plus ça a été fait pour faire évoluer le métier d'enseignant.
Alors, il y a une forme aussi d'utilisation des classements et des évaluations par les familles, les parents. On a parlé de l'université, mais on pourrait évoquer les classements des lycées. Je disais la presse, parce qu'il y a beaucoup de classements des lycées qui sont publiés par la presse. Et ça, Fabienne Rosenwald, vous avez répondu au ministère à ces classements de la presse.
Oui, justement. Donc avant, dans le temps, il y avait des classements sur des taux de réussite à l'examen. Et notre rôle, ça a bien été de dire que ça n'avait pas de sens, hein, puisqu'on peut très bien avoir un taux de réussite exceptionnel. C'est ce que disait Hugo tout à l'heure. Hein, il suffit de
Hugo Harari Kermadec.
Il suffisait d'éliminer certains élèves ou de sélectionner à l'entrée. Et donc, en fait, il n'y a plus de classement possible parce que ce qu'on a proposé, c'est plusieurs indicateurs. L'école, c'est multidimensionnel. Et encore, on n'est pas allé assez loin sur ces IVAL. Nous, ce qu'on dit, c'est on regarde comment les élèves sont accompagnés. On regardera plus tard l'insertion, on regardera la poursuite, il y aura le climat scolaire. Et à partir de là, il n'y a pas un classement, d'abord parce que c'est pas possible et qu'un classement demanderait une volonté politique. Et comment choisir entre la performance et l'équité? On ne fait pas de choix, hein, on veut faire réussir tous les élèves et réduire les inégalités. Ou alors des classements personnels des familles. Et là, les journaux font plutôt ce jeu-là plutôt que de faire un classement. C'est-à-dire que chaque famille value ce qui est important. Moi, je préfère un climat scolaire apaisé, moins de sélection, parce que mon enfant a envie de vivre. Voilà. Donc je pense qu'on a commencé à évoluer vers, justement, classement n'a pas de sens, mais c'est un choix personnel de dans quel type de lycée je veux vivre.
Alors, si tant est qu'on puisse choisir, et en fait, le choix, il se résume à choisir le privé. Est-ce que finalement, ces classements aussi n'ont pas favorisé l'école privée sous contrat, hein, financée aussi avec de l'argent public, avec les programmes, les mêmes programmes, il faut le rappeler?
Alors non du tout, il y a dans le second degré, le lycée, en fait, on a plutôt un retour vers les lycées publics. Hein. Mais en fait,
ça peut être avant le lycée aussi. Vous le savez.
Non, on a mis en place les IVAL, c'était pas tant pour les familles, on l'a mis sur les familles parce qu'il valait mieux ça que les classements en taux brut. Mais le vrai intérêt des IVAL, c'est en pilotage interne, c'est-à-dire un chef d'établissement et ses équipes qui s'en saisissent pour comprendre ce qui s'est passé, pour regarder comment améliorer tel ou tel versant. Ça fait partie de l'ensemble de l'auto-évaluation d'un établissement. C'est vrai que l'intérêt, il est quand même en pilotage interne.
Hugo Harari Kermadec, ce que vous dénoncez à l'université, une marchandisation, est-ce que vous avez peur de la voir arriver d'une manière ou d'une autre, pas forcément par le choix de l'école, mais aussi par des cours particuliers, de l'investissement économique dans la réussite scolaire, donc au niveau de la scolarité dans le secondaire, par exemple.
Alors, moi, je suis vraiment pas spécialiste du secondaire et du primaire, mais ce qui me paraît intéressant et qui, à mon avis, se passe à tous les niveaux, hein, c'est l'idée que les indicateurs, ce qui vient d'être dit, qui servent à l'autopilotage ou au pilotage à différents niveaux par le rectorat, au niveau du ministère, etc. C'est des modes de fonctionnement où les indicateurs, les classements apparaissent comme étant ce qui va récompenser ou ce qui va montrer le niveau de performance des classes, des établissements, des élèves, des professeurs, et donc on peut avoir une forme non pas de marché réel, mais de pseudo-marché où on va mimer une forme de concurrence, même si à la fin il n'y a pas d'achat et de vente. Et ça, moi, c'est ce que je vois principalement dans le supérieur. On privatise pas les établissements, mais on les met en concurrence comme si ils étaient dans une concurrence marchande pour accéder aux moyens, pour accéder au financement, quoi. Et donc si on met en place un mode de financement, un mode de paiement des enseignants qui est à la performance, des primes à la performance ou des moyens supplémentaires pour les établissements suivant leurs résultats, alors c'est comme si on avait marchandisé du point de vue du mode d'organisation, du point de vue du travail et du point de vue du rapport aux élèves qui devient un rapport où c'est pas eux qui payent, mais c'est eux qui amènent les moyens parce que suivant l'établissement auquel ils candidatent, ils vont produire un effet sur l'évaluation et donc sur les financements des établissements ou les primes des enseignants.
Alors, on évalue les enseignants maintenant dans certains pays. Je pense à la Grande-Bretagne, il y en a peut-être d'autres, Éric Charbonnier. Après tout, c'est votre spécialité que de comparer les systèmes éducatifs. Ça marche, le fait comme ça d'évaluer, de comparer. Enfin, quels effets peuvent produire ces comparaisons, y compris par exemple des enseignants entre eux?
Mais les enseignants peuvent être critiques aussi au Royaume-Uni. On l'a vu dans les études Thalys, comme quoi les évaluations étaient purement administratives. Donc il peut y avoir un côté critique sur les évaluations, même quand elles sont généralisées. Par contre, il y a une coopération entre les écoles qui est beaucoup plus forte au Royaume-Uni. Ça, c'est un point très intéressant, où les chefs d'établissement de zones favorisées, défavorisées, peuvent échanger facilement leur métier pendant un semestre. Il en va de même pour les enseignants. Et après, on organise des grands débriefings pour échanger sur ce qui a marché ou non. C'est-à-dire qu'on a cette idée de coopération entre les enseignants dans un établissement et entre les établissements pour aller vers quelque chose de meilleur au service des élèves.
Et ça, ça fonctionne.
Et ça, ça fonctionne. Et ça crée vraiment une émulation positive entre les établissements. Il y a des remises de prix sur ceux qui ont le plus progressé. C'est pas dans l'idée de sanctionner ceux qui ne marchent pas. C'est dans l'idée de déterminer quelles sont les bonnes pratiques et d'avoir un moyen de les appliquer au maximum d'établissements.
C'est très intéressant. Il y a des pays où les enseignants sont davantage mis en concurrence, sont beaucoup plus évalués qu'en France. Qu'est-ce que ça produit comme effet? Parce que ça peut être des réformes qui peuvent arriver en France. Qu'est-ce que ça produit comme effet sur les systèmes scolaires?
Alors, ça produit des effets positifs sur le climat scolaire à l'intérieur des établissements. Ça produit aussi un effet positif sur les élèves. Ce qu'on a pu voir en Finlande, par exemple, vous avez même les élèves qui vont évaluer leurs enseignants et les enseignants qui discutent ensemble des évaluations des élèves. C'est perçu comme un climat de confiance entre tous les acteurs. C'est-à-dire que les enseignants savent que les élèves ne vont pas dépasser les bornes dans les évaluations. Et puis, entre eux, ça leur permet d'améliorer les pratiques pédagogiques.
Mais ça, c'est par les élèves, par la hiérarchie aussi?
Par la hiérarchie, vous avez dans certains pays, on est recruté par son chef d'établissement en Finlande, ou même au Royaume-Uni ou en Suède. L'enseignant, une fois qu'il a son diplôme, il fait son CV et il est lui-même candidat à un poste dans une école. Donc on n'est pas du tout dans ce genre de système en France où finalement on souffre beaucoup pour avoir son diplôme, qui est d'une exigence académique très élevée. Et puis après, on est dans un établissement pas forcément celui qu'on a choisi, un peu livré à soi-même, sans finalement avoir des conseils des anciens et des possibilités de s'améliorer tout au long de la carrière.
Alors, je précise, Éric Charbonnier, que ce que vous décrivez est dénoncé avec force par les syndicats enseignants. Ils ne sont pas là pour le dire, mais il faut tout de même préciser que voilà, ça, c'est plutôt une crainte pour les enseignants français. L'étude PISA montre aussi, Éric Charbonnier, la réussite de systèmes scolaires ultra compétitifs. Je pense à la Corée du Sud, je pense à des pays où la pression scolaire est extrêmement forte. Vous ne citez jamais ces exemples. Pourquoi ?
On cite ces exemples, mais on y rajoute une dimension. C'est-à-dire, on peut dire, quand on est dans un pays d'Asie, les élèves sont performants, il y a une forme d'équité sociale, c'est-à-dire que les élèves les plus défavorisés ont du soutien. Mais quand on y ajoute la troisième dimension du bien-être, on voit que dans ces pays, il y a beaucoup d'anxiété. Il y a des élèves qui sont pas forcément épanouis. Et d'ailleurs, il y a des réformes qui sont faites dans ces pays pour rendre le système moins anxiogène. Donc, on peut pas considérer que c'est le système d'éducation parfait, parce que, comme je vous dis, la dimension du bien-être, c'est une dimension qui est aussi très importante de l'OCDE. On a un volume entier qui traite cette question. Et aujourd'hui, il suffit pas d'être performant pour être un citoyen, un futur citoyen épanoui dans le monde de demain.
Donc, c'est comme au travail, hein. On a besoin de bien-être. Fabienne Rosenwald, les élèves français, où en sont-ils? Comment est-ce qu'on évalue leur bien-être et est-ce qu'il est bon ce bien?
L'ADEP a mis en place, justement, on parlait tout à l'heure de l'enquête auprès des chefs d'établissement. C'est intéressant d'avoir aussi la vision des élèves. On a des enquêtes qu'on appelle climat scolaire et victimation, où les élèves sont interrogés. Et les élèves, ils sont plutôt heureux à l'école, hein. Ils sont heureux, ils s'entendent bien entre eux, ils s'entendent bien avec leurs enseignants. Et ça permet aussi de prendre du recul, ça permet aussi de montrer par rapport au phénomène de violence qu'on avait tout à l'heure, que l'école pour eux, hein, dans certains quartiers, l'école, le collège, le lycée, c'est quand même un lieu où il y a beaucoup moins de violence que ce qui se passe autour, hein. C'est important de dire que l'école, elle n'est pas toute seule, hein. Il y a tout ce qui se passe autour.
Bien entendu, Éric Charbonnier, sur le bien-être des élèves français, PISA confirme.
Oui, tout à fait. On avait vu dans PISA 2015 que la France était légèrement au-dessus de la moyenne sur le bien-être des élèves. Donc c'est pas forcément la faiblesse du système d'éducation. Voilà, après on a vu malgré tout que c'est plus pour les élèves en difficulté. C'est pas forcément leur bien-être qui est remis en question, mais c'est plus les aspirations professionnelles. C'est-à-dire que les inégalités ont un impact sur la performance, et la performance a un impact sur le métier qu'on veut exercer plus tard. Donc c'est plus sur cet aspect sur lequel il faudrait réfléchir.
Oui, pour aller même plus loin, c'est-à-dire qu'à performance équivalente, les élèves défavorisés se sous-estiment. D'ailleurs, on le voit aussi dans PISA. C'est là-dessus où c'est un véritable sujet.
Et on en revient à cet immense problème des inégalités du système scolaire français. On va continuer à en parler la semaine prochaine puisque nous diffusons une émission qu'on a déjà enregistrée avec le sociologue Bernard Lahire qui a publié « Enfance de classe à la rentrée ». Il sera avec l'écrivaine Chloé Cormand. Et puis, un grand merci à tous les quatre, Éric Charbonnier, Hugo Harry-Kermadec, Fabienne Rosenwald et Thomas Schauder qui étaient au téléphone avec nous depuis son lycée. Je crois que la leçon de choses de cette semaine va beaucoup vous intéresser et qu'elle offre un lien parfait entre ce numéro et donc le prochain numéro d'Être et Savoir. C'est dans un instant avec Ariane Ascaride et Sophie Bobert, évidemment.
They say boys don't cry, but your dad has shed a lot of tears. They say I should be a strong man, but baby, I'm still filled with fear. Sometimes I don't know who I am. Sometimes I question why I'm here. I just wanna be a good dad. Will I be? I have no idea. They say girls shouldn't be tough, and mom should raise the kids at home. But baby, I know that that isn't true, 'cause your mama's the toughest person I know. I wanna raise you to be like her, and watch you show the world how to do it on your own. I'm still trying to figure out who I am. I don't wanna mess this up or do this wrong. I'm gonna be there for your first breath. I don't know if I'll be there for your first step. I could promise you that I'll try to work less, but the tour's routed, and I got this album. Put in so many hours, and I just want the outcome to be something that I can look back and I can be proud of. Don't wanna be a dad that's living in FaceTime, but I got a world to sing to and you at the same time. I won't spoil you, you can trust that. For your sweet 16, you get a bus pass. Had your heart broken, been there, done that. I love you and I can't give you enough.
Que faire de ses origines lorsqu'elles sont méprisées par la société? Une force et une certaine poésie, comme en témoigne Ariane Ascaride au micro de Sophie Bobert.
Alors l'histoire au départ, c'est moi je suis fille d'un homme qui est issu de l'immigration et qui souffrait quand même beaucoup parce que Marseille, ça peut être très attirant mais ça peut être très dur, qui souffrait beaucoup dans les années 30 d'être traité de voleur, de menteur, de macaroni, de rital.
Vous avez entendu des gens traiter les Italiens de voleurs, de menteurs.
Mais bien sûr. Enfin, c'est de toute façon un Italien, ça parle beaucoup avec les mains. On ne sait jamais. C'est des menteurs. Ils essayent d'engeler les gens. Voilà. Donc mon père voulait absolument pas ressembler à ça. Et je pense aussi qu'il y avait autre chose. Je pense que mon père voulait être tellement français qu'il était hors de question qu'il épouse une fille d'origine italienne.
Mais je reviens sur ce complexe de l'immigré. Comment est-ce que vous le ressentiez lorsque vous étiez enfant ou adolescente? Est-ce que parfois vous aviez tout de même envie de lui demander de vous apprendre l'italien, de vous parler de là-bas? Ou est-ce que son attitude, son rejet de l'Italie en creux, quelque part vous faisait honte parce que ça vous disait que c'était pas très classe? Enfin, est-ce que justement il y avait une lutte des classes qui se jouait là?
Effectivement, il fallait absolument pas lui demander de vous apprendre l'italien. Mais absolument pas. C'était rédhibitoire. Mais si vous voulez, en dehors du fait de cette italianité, nous sommes issus de l'immigration, mais nous sommes des fils de cons de pauvres. Il était là plutôt le complexe, vous voyez. Même en dehors de cette culture italienne. Il se fringuait toujours pour sortir. Il voulait toujours représenter plus que ce dont nous venions. Et en même temps, c'était ça qui était très compliqué. Et en même temps, il était très fier de sa culture. En même temps, il vous racontait ce quartier à Marseille où il avait grandi, qui était une Little Italy. Il l'a écrit d'ailleurs. C'est des histoires absolument sublimes de ces gens. Mais moi, vous voyez, quand je suis rentrée au conservatoire de Marseille, plus tard, on disait de moi que j'étais vulgaire. Je n'étais pas vulgaire, j'étais populaire, ce qui n'avait rien à voir. Mais je n'avais pas le bon goût bourgeois, encore que le bon goût bourgeois marseillais, il faut quand même un peu s'en méfier. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, ce complexe-là. Et ça, ça perdure pendant longtemps et vous allez essayer d'apprendre à être autrement. Et comment vous dire, je suis, je crois, porteuse, peut-être que je suis la dernière génération qui a été comme ça, j'ai été imbibée dans un mode de vie, un mode de quartier, des rapports entre les gens, entre les voisins, petit à petit. Après nous, je pense qu'après notre génération, les choses ont commencé à s'effriter. Vous savez, moi je suis la petite fille d'une dame qui a 70 ans, elle allait faire des ménages à 5h du matin dans les bureaux de l'EDF. Voilà, je suis porteuse de ça et je l'aurai jusqu'à la fin de ma vie. La seule chose que je dirais, c'est que pendant longtemps, je ne me rendais pas compte. J'étais dans mon milieu, ça allait, c'était très bien. C'est plus tard, quand je suis allée au lycée, que d'un coup, j'ai rencontré des gens qui étaient différents. Et quand un professeur de français vous dit un jour, mais vous, d'où vous venez, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'on écrit. Là, d'un coup, vous vous dites, mais d'où je viens? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que vous n'avez pas conscience au départ. Oui, vous voyez des gens, des filles, parce que j'étais dans un lycée avec des filles qui sont mieux habillées que vous, qui vont à Noël faire du ski, vous voyez, des choses comme ça, où d'un coup, on fait du ski à Noël, je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça, si vous voulez. Là, vous vous dites ça, donc il y a des différences.
Mais comment est-ce qu'il se traduisait ce tourment à Anne Escaride dans votre quotidien de jeune fille?
Alors, ça se traduisait vraiment par une honte. En fait, c'est ça qui est incroyable. Vous avez honte de vous-même par moment, parce que vous n'êtes pas habillé comme il faudrait être habillé. Et à ce moment-là, si vous voulez, il n'y a pas encore cette histoire des marques comme il y a aujourd'hui. Et c'est là où je dis que, entre guillemets, le grand capital a vraiment gagné. Parce que les gamins, aujourd'hui, même dans les cités, même s'ils boivent un café au lait le soir, ils veulent absolument ces marques, parce que comme ça, au moins, ils existent. Et c'est ça qui est terrible. Moi, j'ai juste envie de dire, mettez-vous des tongs, quoi. Et vous existerez tout autant.
Et Ariane Ascaride est à l'affiche du nouveau film de Robert Guédiguian qui est sorti mercredi, Gloria Mundi. Et rapidement, un mot sur le forum « Et si on changeait l'école ?». Il est co-organisé par nos confrères de France Info et le magazine Oui Demain. Il aura lieu le 10 décembre de 19h à 21h au studio 104 de la Maison de la Radio. Vous pouvez vous inscrire. Feront partie des invités Philippe Mérieux, Angean Sourd, qui s'occupe des Saventuriers, Vincent Fayet, spécialiste de l'enseignement mutuel, ou Brigitte Liattard, qui s'occupe de médiation par les pairs en milieu scolaire. À bientôt sur France Culture pour un autre Être et Savoir à 17h le dimanche ou en podcast.